Faux positif, le dossier.
Avec le docteur Catherine Gillin, neurologue spécialiste de la réadaptation fonctionnelle, on parle de l'épilepsie, à ne pas confondre avec la crise épileptique. Alors on va faire un point, évidemment, docteur Gillin. On parle de quoi exactement ?
Alors, on parle de décharge électrique anormale. Pour faire un petit topo de la situation, donc notre masse du système nerveux, du tissu cérébral, est constitué de cellules spécifiques qui sont des neurones, qui sont capables d'auto-générer un potentiel d'action électrique, ce qui leur permet de fonctionner. Mmh. Elles sont connectées entre elles en formant des réseaux extrêmement élaborés et des réseaux qui deviennent de plus en plus spécifiques. Ainsi, ça permet la communication, si vous voulez, avec le monde extérieur. Toutes les informations sensitives que vous recevez par la vision, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher, la douleur, etc., arrivent dans des zones spécifiques qui peuvent interpréter l'information reçue. Et puis d'autres zones reçoivent alors une information d'activité motrice. Si par exemple c'est quelque chose de douloureux, que vous êtes en train de vous brûler, ça va être la commande de vite retirer votre main de la brûlure. Donc cet extraordinaire réseau fonctionne de deux manières. Ce potentiel électrique qui se transmet d'une cellule à l'autre, mais la transmission d'une cellule à l'autre se fait par ce qu'on appelle un neurotransmetteur, qui est une molécule chimique. Normalement, il y a un équilibre dans le fonctionnement, bien sûr, de tout ce réseau très, très élaboré. Et pour des raisons qui sont soit des raisons génétiques propres à l'individu, qui naît comme ça, si vous voulez, soit une altération qui peut survenir plus tard, qu'elle soit une perturbation du métabolisme ou l'apparition d'une lésion cérébrale. Vous allez parler de l'AVC dans la semaine, c'est un exemple. Donc tout ce qui peut perturber à un moment donné cette activité électrique ou chimique peut provoquer une décharge tout à fait anormale. Au lieu d'avoir un petit réseau électrique tranquille, c'est comme un court-circuit brutal, si vous voulez. D'ailleurs, épilepsie vient du verbe grec épilambalein, qui veut dire prendre par surprise. Donc ça commence toujours de façon un peu court-circuit. Et puis, cette décharge anormale comporte finalement un groupe de neurones, soit reste localisé à ce groupe de neurones, soit finit par s'étendre un peu comme un feu de forêt qui s'étend à tout le reste de la plaine. Et à ce moment-là, c'est une crise dite généralisée. Donc, quand ça reste focalisé à une zone bien spécifique, on appelle ça une crise focale ou partielle. Et puis, elle peut se généraliser secondairement. Donc, c'est vraiment la perturbation, quelle qu'en soit l'origine, dans cet équilibre qui va provoquer ce qu'on appelle la crise d'épilepsie. Et en fait, toute personne, même en bonne santé, peut potentiellement présenter une crise d'épilepsie. Et on considère qu'à peu près 20% de la population en fait au moins une dans sa vie.
Ah oui ?
Oui.
Parfois sans s'en rendre compte alors ?
Si, par exemple, si vous avez tout à coup une hypoglycémie, donc une perturbation importante, votre cerveau souffre d'être en manque de sucre, vous pouvez faire une crise d'épilepsie qui est symptomatique de ce moment d'hypoglycémie et puis ne plus jamais en faire parce que vous n'aurez plus jamais l'hypoglycémie. Donc, toute personne peut potentiellement en faire, ça c'est vraiment important de le savoir. Et on devient, entre guillemets, malade épileptique lorsque cela se répète. Et alors là, il y a des subtilités dans les définitions, soit provoquées, soit non provoquées, un certain nombre de fois. Donc, une crise, on n'est pas malade épileptique pour autant.
L'expression de la crise est-elle toujours la même, à savoir l'image qu'on a le plus dans le public et auprès de tout un chacun, c'est-à-dire ce moment de tremblement ininterrompu et incontrôlé?
Non, ça c'est une seule forme. Et je ne les ai pas calculées, mais je pense qu'il y en a plus d'une centaine.
Ah oui?
Oui. Donc ça, c'est la plus typique et celle qui effectivement a d'ailleurs toujours fait peur. Hein. Dans le temps, il y a quelques centaines d'années, c'est malheureusement pas très loin. Et heureusement, maintenant, on a vraiment compris. Mais on pensait que les gens étaient pris par le diable. Hein. Donc c'est vrai que cette crise généralisée est très impressionnante. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est tout à coup une décharge totale, qui tombe, qui crie et qui se met à convulser. Hein. C'est plus que des tremblements. Oui. C'est vraiment des convulsions et puis qui se raidit très fort. Ça, c'est ce qu'on appelle la crise généralisée. On peut avoir des formes extrêmement élaborées si, par exemple, vous faites une crise au niveau du lobe frontal, qui est le lobe du comportement élaboré. Vous pouvez voir le patient, entre guillemets, simplement se lever, déambuler, chipoter à quelque chose, se déshabiller, se rhabiller. Enfin, il y a un tas de comportements élaborés dont il n'a aucune conscience parce que ce sont des décharges épileptiques. On peut avoir des crises, si c'est au niveau du lobe occipital, des crises visuelles. On peut avoir des crises auditives au niveau de l'audition. Donc, selon l'endroit, si vous voulez, où ça se génère au départ, ce sera un type de crise. Par contre, un même patient a toujours le même type de crise.
D'accord, il n'y aura qu'un seul canal d'expression, quel que soit son niveau de crise à ce moment-là, ça sera cette expression unique. Oui. Ce qui permet, j'imagine, au jour le jour, de mieux peut-être parfois percevoir un début de crise ou en tout cas la manière de le gérer pour l'entourage ou pour la personne
Absolument.
En elle-même.
Absolument. Donc, c'est notre rôle, quand on reçoit un patient qui vient pour une suspicion de crise d'épilepsie, de faire vraiment une mise au point extrêmement élaborée qui comporte non seulement l'interrogatoire du patient, mais aussi de tout son entourage qui est souvent témoin, qui nous apporte beaucoup d'indications. Même parfois, on demande de le filmer pour que nous, on puisse voir exactement comment se déroule la crise. Il y a bien sûr les enregistrements par électroencéphalographie qui enregistrent les manifestations justement électriques du cerveau. Et on peut faire des électrodes de très longue durée qui durent parfois des jours entiers avec contrôle vidéo. Et puis, on peut même encore aller plus loin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on peut identifier, si vous voulez, le type d'épilepsie du patient, parce que c'est très très important. Si par exemple il a une épilepsie d'origine génétique, c'est-à-dire que génétiquement son seuil épileptogène, donc le niveau à partir duquel il va décharger est trop bas, on sait qu'on est dans une forme qui peut très bien répondre à tel type de médicament et que les gens sont relativement tranquilles. Si par contre l'on découvre que c'est l'expression, par exemple, d'une anomalie de certains neurones qui n'ont pas été bien formés, on sait que ces neurones-là restent très épileptogènes et donc ça va être beaucoup plus difficile de traiter ces patients. Et parfois, on arrive justement à leur proposer une chirurgie pour enlever la masse des neurones anormaux. Donc c'est vrai qu'il faut absolument faire une mise au point qui est parfois très très difficile et très compliquée.
Et très longue.
C'est pour ça qu'il y a des centres d'épilepsie réfractaire qu'on appelle, qui sont très spécialisés là-dedans. Et il faut toujours référer un patient avec lequel on ne s'en sort pas facilement parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin et d'optimaliser la prise en charge.
Mais est-ce que justement la création de ces centres d'épilepsie réfractaire n'ont pas un peu aussi changé la vision, à la fois la prise en charge, le traitement, mais aussi la vision que l'on pouvait avoir de l'épilepsie, ne fût-ce aussi que pour les personnes qui le vivent, pour qui ça reste souvent un fardeau et un handicap dans la vie sociale, en fonction de la manière dont la crise s'exprime, avec quelle intensité, quelle durée, etc. Pour certains, c'est quand même encore très difficile à vivre, mais la création de ces centres, ça n'a pas un peu quand même changé les choses?
Oui, je pense que ça a vraiment, d'une part, dédramatisé, ce qui est très important, se rendre compte que c'est une vérité, parce que c'est vrai que des crises un peu particulières, comme celles que je vous ai citées, il faut savoir aussi que c'est de l'épilepsie et savoir comment le traiter. Et comme vous disiez au départ de la question, que les patients puissent reconnaître quand ça commence pour éventuellement pouvoir agir pour arrêter la crise ou se mettre dans une situation de protection. Si le patient sait qu'il va tomber, l'important dans une crise, c'est surtout d'éviter de se blesser. Donc il a le temps parfois de s'asseoir, il a le temps de se mettre dans un fauteuil, il a le temps de se coucher par terre pour ne pas avoir des blessures plus importantes. Donc c'est vrai que ça permet au patient aussi de mieux appréhender son problème, de mieux le gérer.
Alors, avant de parler de traitement, parlons de détection de l'épilepsie, parce que lorsqu'elle est génétique, est-ce que ça veut dire qu'elle s'exprime dès le départ et que déjà chez des enfants en très bas âge, voire des bébés, on peut la déterminer, ou est-ce qu'il y a un temps de latence et quand elle survient plus tard dans la vie, est-ce qu'il y a des différences aussi d'expression, d'intensité, ou est-ce que finalement, il y a autant d'épilepsie que de personnes?
Non, mais c'est une excellente question parce que, justement, quand vous parlez de l'enfant, ça c'est essentiel. Je vous rappelle que le cerveau de l'enfant n'est pas du tout formé à sa naissance. Et que, en tout cas, pendant les deux premières années de la vie, il y a vraiment une multiplication considérable des neurones et des réseaux neuronaux. C'est ça l'apprentissage, en fait, que l'on voit quand un enfant commence à tenir assis, commence à faire des puzzles, commence à parler. C'est vraiment le développement de tous ces circuits neuronaux spécialisés. Et finalement, on appelle ça la maturation cérébrale. Cette maturation cérébrale est vraiment majeure pendant les 10 premières années et puis s'affine encore jusqu'à 17-18 ans. Ça rend l'enfant plus sujet à l'épilepsie.
Oui.
Parce que justement, il y a une fragilité un peu comme une maison en construction, si vous voulez. Toutes les briques ne sont pas encore mises, tout le ciment n'est pas encore parfait. Et donc, au moindre petite perturbation, pouf, ça peut provoquer un problème. Plus aussi qu'il y a certaines épilepsies qui vont apparaître selon le degré de maturation. Ou quand l'enfant, par exemple, dans le syndrome de West, on sait qu'on est entre 3 mois et 1 an. Le Lennox-Gastaut, on est entre 3 ans et 6 ans. L'épilepsie à point de Ronaldic, entre 9 ans et 12 ans. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il faut arriver à ce stade de maturation-là pour que ce type d'épilepsie se manifeste.
Avant, la connexion n'est même pas existante. Quoi.
Absolument, c'est tout à fait ça.
D'accord.
Et donc, comme elle n'était pas là, ben, ça ne se manifeste pas. Et puis, il y en a certaines, je vous citais l'épilepsie à pointe rolandique de l'enfant, qui est d'ailleurs une épilepsie nocturne.
Oui.
Donc, en général, aux alentours de 10 ans, c'est un enfant, soit dans la première partie du sommeil, soit au réveil, mais plus souvent dans la première partie du sommeil, qui tout à coup se réveille, et puis qui a des mouvements au niveau de la bouche. Il essaye de parler, une impossibilité de parler, avec parfois évidemment une réaction un peu de terreur. C'est une épilepsie qui n'est que nocturne, qui est parfois associée à certaines difficultés d'apprentissage et qui le plus souvent guérit avec l'évolution de la maturation, donc on ne la traite pas. En général, vers 13-14 ans, ça disparaît. Donc on voit très bien que le degré de maturation peut justement générer des choses comme ça, perturbations, hop, qui se résolvent après, une fois que la maturation continue.
Et l'épilepsie nocturne, telle que vous venez de la décrire, peut passer très inaperçue, même auprès de parents, parce que la situation n'est pas vraiment ingérable. On peut confondre avec des cauchemars, des terreurs nocturnes, ce genre
Absolument.
De choses. Et que c'est vrai que 5 minutes de calme avec l'enfant, en général, passe très bien, sauf que l'enfant ne s'en souvient pas le lendemain.
Dans celle-là, il a une conscience de sa crise, mais effectivement, c'est exact ce que vous dites, parce que c'est pas rare de finalement faire le diagnostic chez des ados qui viennent pour troubles du sommeil.
Ah oui, d'accord.
Il dort pas bien, il se réveille toutes les nuits, il vient me voir, et puis il a l'air vraiment pas bien parce qu'il sait pas me parler, et puis en fait, c'est cette épilepsie à pointe rolandique qui est tout à fait une image tout à fait typique à l'électroencéphalogramme. Donc voilà, c'est vrai que c'est très important de connaître l'âge, de connaître l'évolution de la maturation du cerveau. Et puis par la suite, il y a des épilepsies, en général entre, je dirais, 20 ans et 50 ans, il n'y a pas vraiment de déclaration, je dirais, liée à l'âge. Et puis après, il y a alors les épilepsies plus symptomatiques, où il y a en première ligne les épilepsies sur lésions vasculaires. À partir du moment où il y a une lésion vasculaire, le réseau neuronal est abîmé, donc il peut exprimer sa souffrance par de l'épilepsie. Mais il y a aussi toutes les autres maladies qui peuvent toucher le cerveau de l'adulte, que ce soit une tumeur, que ce soit une démence, que ce soit une sclérose en plaques. Ce sont des choses qui peuvent être irritantes, si vous voulez. Les traumatismes aussi. Il y a pas mal de gens qui deviennent épileptiques après un traumatisme crânien.
On va justement vous proposer une émission ce jeudi sur le lien entre les accidents vasculaires cérébraux et l'épilepsie. Ça sera pour la poursuite, évidemment, de cette semaine consacrée au cerveau. Rendez-vous donc d'ores et déjà jeudi. On revient sur l'épilepsie dans quelques instants avec le docteur Catherine Gillin. Vos questions également éventuelles, vos témoignages au 02 737 26 06. Attention, pas de consultation en direct, vous le savez bien dans l'émission, bien sûr. Un SMS au 6031 est également possible. N'hésitez pas. On va parler peut-être, répondre à Anne qui voudrait en savoir un peu plus sur l'épilepsie réflexe. Je ne connaissais pas, donc peut-être dire 2-3 mots juste après ceci.
Au positif sur la première. Au positif de 11h à midi sur la première.
J'ai pas un chat dans la gorge, j'ai une portée dans la gorge. Je suis désolée de tousser comme ça de manière intempestive. La docteure Catherine Gillin est avec nous, neurologue. On parle des épilepsies. On reviendra peut-être un peu sur les épilepsies nocturnes aussi, mais d'abord peut-être l'épilepsie réflexe dont parlait Anne via la page Facebook d'ailleurs. C'est quoi ? C'est une réaction ? Parce que moi, quand on parle réflexe, j'entends réaction.
Oui, tout à fait. Ça peut être une réaction à des stimuli tout à fait différents, audiogènes. Par exemple, les gens qui peuvent faire une épilepsie à des bruits brutaux, ou il y a des épilepsies à la lecture aussi qui sont très handicapantes. handicapante, évidemment.
Stromboscope,
le truc des lumières. Ça, c'est encore autre chose, stimulation lumineuse intermittente. Ouais. Mais on a justement parlé du cas d'un patient qui a une épilepsie réflexe à la lecture, et ce monsieur ne peut même pas conduire, évidemment, puisque rien que lire les panneaux indicateurs.
Ah oui, ça se voit là.
C'est très, très handicapant, oui.
Ah oui, là, on comprend qu'effectivement, pouvoir faire quelque chose, ça reste essentiel. Mais alors, plus on en parle, docteur Gillin, plus je me dis, dans les traitements, ça doit quand même être assez complexe, oui. Parce que il y a tellement de variétés d'épilepsie et d'épileptiques que, quelque part...
Et d'anti-épileptiques, et il y a certains anti-épileptiques qui aggravent certaines formes d'épilepsie.
Aïe.
Donc, il faut, sincèrement, maintenant, oui. Il faut vraiment s'y connaître. Oui. C'est extrêmement... spécifique, c'est extrêmement élaboré, tant pour le diagnostic précis que pour le traitement. On ne peut vraiment pas donner n'importe quel antiépileptique à n'importe quelle épilepsie, ça n'est pas vrai du tout. Et donc c'est vrai que c'est une affaire de spécialiste.
Mais il existe quoi ? C'est plus juste pour avoir un ordre de grandeur des antiépileptiques, c'est quoi ? C'est une quarantaine, une centaine, différentes ?
Écoutez, si on met à la fois ceux qu'il y a sur le marché et ceux qui sont vraiment à la porte, il y en a vraiment beaucoup, on doit atteindre la petite centaine, oui.
Ah oui, donc effectivement, avec des différences parfois très infimes, j'imagine, entre l'un et l'autre, mais ces différences ont visiblement...
C'est significatif.
Sont quand même significatives.
Et puis, à partir du moment où un patient... Donc on essaye toujours de traiter le patient, évidemment, avec un traitement qu'on cible selon le type d'épilepsie qu'il a. Parfois, s'il ne répond pas bien, on doit ajouter un deuxième, parfois même dans les réfractaires, un troisième. Mais les associations aussi sont à étudier, parce qu'il y a des associations qui sont péjoratives.
Comme quoi, par exemple ? Enfin, des associations entre...
Deux médicaments.
Deux médicaments,
oui,
d'accord.
Oui, oui. Donc, selon le type d'épilepsie que vous avez, vous allez avoir envie de rajouter ça ou ça ou ça, mais il y en a parfois deux qui ne vont pas ensemble, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un travail de finesse.
Ah, mais vous êtes en train de dire qu'on prend plusieurs antiépileptiques
oui,
à la fois.
Il y en a qui sont obligés, absolument.
Pour que la combinaison de l'ensemble fasse en sorte que les crises... Oui. C'est quoi le but, justement ? C'est que les crises disparaissent, qu'elles s'atténuent, qu'elles soient contrôlables ? Qu'est-ce qui fait l'antiépileptique ? Il raccommode les liens là où il n'y en a plus ?
Alors, il agit justement soit sur ce potentiel d'action électrique, soit sur la perturbation chimique des neurotransmetteurs, soit sur les deux.
D'accord.
Voilà. Et donc, on va essayer de calmer le jeu de ce court-circuit et de toute la perturbation que cela provoque.
Là, on parle de traitements chimiques, médicamenteux.
Oui, oui.
Est-ce que, comme pour d'autres types de maladies qui sont quand même très récurrentes dans la population aujourd'hui, des traitements non conventionnels peuvent être un apport supplémentaire ou pas ? Et quels sont-ils dans ce cas-là ?
Alors, ça dépend ce que vous appelez non conventionnel.
Oh, bah, vous savez, c'est toute la panoplie qui n'est pas médicamenteuse, justement. Est-ce que la kiné, l'ostéo, méditation, la pensée positive.
Sincèrement, partir du moment où vous êtes vraiment dans une perturbation fonctionnelle, tout à fait, j'ai envie de dire, mécanique. Bien sûr, comme pour toute maladie, plus vous serez, entre guillemets, zen et bien dans votre peau, mieux ça ira.
C'est ça. Mais on ne peut pas réapprendre à son cerveau à se connecter d'une manière...
Non, sûrement pas. Et si vous avez vraiment un seuil épileptogène abaissé d'origine génétique, c'est comme ça jusqu'à la fin de vos jours, que vous soyez le plus parfait au monde ou pas. Je répète encore, la nature n'est pas judéo-chrétienne.
Hein. Non.
Par contre, il faut le dire d'emblée, puisqu'on parle des autres traitements, ouais. Dans le cas d'épilepsie réfractaire, parce qu'il y a quand même à peu près 45% des patients qui gardent un nombre d'épilepsies trop important, on a recours à des méthodes chirurgicales qui sont, elles, de plus en plus efficaces, de plus en plus précises. Et ça, ça vaut vraiment la peine de le savoir aussi.
Alors, la méthode à laquelle je pense, tout le monde pense le plus systématiquement, mais vous allez me dire si c'était une erreur ou pas, c'est l'implantation de certaines électrodes qui vont permettre de stimuler des parties du cerveau. Vous avez parlé d'extraire des cellules, non, des molécules qui seraient... En fait, c'est quoi en fait la chirurgie au service de l'épilepsie ?
Non, ce dont vous parlez, les stimulateurs, on fait ça pour les maladies, par exemple, on en avait parlé pour le Parkinson, où ça va rééquilibrer le trouble déficitaire du Parkinson. On peut le faire dans le tremblement essentiel, qui est de nouveau un déséquilibre de fonctionnement local. Quand il s'agit d'une épilepsie, évidemment, on ne peut pas traiter une épilepsie qui est due à une perturbation de l'ensemble du cerveau, parce que vous ne pouvez pas opérer l'ensemble de votre cerveau, on est bien d'accord. Mais quand il y a, soit, par exemple chez l'enfant, il y a des épilepsies parfois extrêmement sévères, et on va en parler tout à l'heure, où on est confronté à une situation telle que ce que l'on peut faire, c'est faire des espèces de petits cisaillements, si vous voulez, un peu comme quand vous attendrissez votre beefsteak, qui permet, je suis désolée, qui permet de couper les réseaux qui transfèrent d'une zone à l'autre. Donc ça s'appelle une épilepsie de déconnexion. Donc on isole le foyer épileptogène.
On l'empêche de s'étendre.
Pour empêcher de s'étendre. Voilà, d'accord. Ça c'est quelque chose que l'on peut faire. Si c'est une lésion vraiment beaucoup plus étendue, on peut faire ce qu'on appelle des hémisphérotomies. Enfin, on rentre dans des détails. Le plus utile et le plus fréquent, c'est effectivement quand on parvient à isoler une lésion responsable. Par exemple, quelque chose qui est extrêmement fréquent, c'est la sclérose mésio-temporale. Mmh. Ce sont des gens qui ont manifestement un problème durant la vie fœtale et qui naissent avec une petite zone du lobe temporal interne qui est anormale et qui est extrêmement épileptogène. Donc c'est très 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 difficile d'arriver à les traiter et à faire que ces patients soient sans crise. On peut aller opérer, enlever cette petite zone et avoir finalement un net bénéfice. On ne dit pas qu'ils sont sans médicaments, mais ils en ont nettement moins et nettement moins de crise.
C'est le but aussi de la chirurgie qui permet que la crise ne s'étende pas. Le but n'est pas d'éliminer la crise, mais de l'atténuer. Absolument. En tout cas, et de pouvoir mieux la maîtriser.
Oui. Maintenant, il y a des cas où les gens n'ont plus rien après. Oui. Il y a vraiment des cas d'épilepsie qui ont tout à fait changé la vie des gens et qui ont supprimé les crises.
Mais ça arrive aussi. Ça reste rare. Aujourd'hui, se débarrasser de l'épilepsie de manière totale, quand on est... On ne parle pas des crises, mais on parle bien de la maladie épileptique. C'est une utopie ou ça quand même... Ça...
Écoutez, je vais quand même vous raconter... Quand on avait parlé de l'émission de l'épilepsie...
En 2008,
tout à fait. Je vous avais raconté l'histoire d'un de mes patients qui faisait des crises nocturnes. Et quand on avait fait l'enregistrement de nuit, on s'était rendu compte qu'il en faisait 350.
Oui.
Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Avec, évidemment, les troubles cardiaques et tout ça. Et ce monsieur...
Ne se reposait jamais.
Mais non, il était incapable de travailler, même s'il n'en faisait pas la journée. Et comme c'était dans la zone du langage, à l'époque... On avait tout essayé, on disait on ne peut pas opérer. Moi, j'ai continué évidemment un petit peu me battre.
L'opération risquait de lui supprimer le langage.
Supprimer la parole, ouais. Voilà. Et puis finalement, avec l'amélioration des techniques chirurgicales, on l'a opéré il y a un peu plus d'un an. Il n'en fait plus du tout.
Oh, il dort comme un bébé. Ça va lui changer la vie.
Il dort comme un bébé, il va nettement mieux. Hein, ce qui grillait quand même quelques neurones aussi chaque nuit. Hein.
Et ici, la chirurgie, l'acte chirurgical a consisté à faire en sorte que la crise ne s'étende plus ou alors à les éliminer parce qu'on a réussi quand même à déterminer le foyer avec précision.
En fait, le chirurgien a fait les deux. Il a enlevé le plus possible du foyer anormal, mais limité pour lui laisser le langage. Mmh. Et il a fait des déconnexions pour empêcher ce qui reste de se transmettre. Et donc ça, c'est vraiment un cas absolument extraordinaire d'un patient qui n'en a plus du tout et qui reste sous un traitement médicamenteux assez léger.
Mais ça reste rare, malheureusement.
Mais voilà. Je pense qu'il faut, jamais, jamais, jamais perdre espoir. En 2008, on disait on ne peut pas. Continuer à surveiller l'évolution, continuer à le présenter à différentes équipes chirurgicales, continuer à présenter, à revoir, à refaire des mises au point. Et finalement, oui, il y a quelqu'un qui est dit « Ok, j'y vais ». Et donc, il y a vraiment une évolution dans la médecine qui est extraordinaire ces 20 dernières années. C'est vrai, beaucoup, beaucoup par l'imagerie et les techniques neurochirurgicales, c'est exact. Et pour beaucoup de choses comme ça, je crois qu'il faut continuer vraiment à garder en mémoire et rester positif. On peut avoir des améliorations significatives.
J'imagine que pour les parents, il y en a plusieurs qui nous ont contactés pour parler des enfants qui sont épileptiques. C'est parfois très désarmant, difficile à vivre. Là aussi, il existe, et on renvoie aisément vers des associations de patients qui se sont regroupés, qui peuvent venir en aide également. Mais on parle beaucoup aussi dans les témoignages, je ne vais pas tous les décrypter et les citer, mais d'associations de l'épilepsie avec d'autres choses. Est-ce que ça veut dire que On a de mieux en mieux ou de plus en plus découvert que l'épilepsie s'associe souvent avec un autre trouble, malheureusement, en sans savoir forcément lequel est à l'origine de l'autre, quoi.
Oui, et par deux choses. D'une part, l'amélioration effectivement des techniques exploratoires, tant au niveau de l'électroencéphalogramme que de l'imagerie avec les résonances magnétiques, mais aussi l'amélioration de la génétique. La génétique a fait des bons considérables également, et donc on découvre de plus en plus des anomalies génétiques à la base de certains syndromes. Alors je dis syndrome justement parce que quand c'est associé à d'autres choses, donc quand on multiplie, si vous voulez, des symptômes, on forme un syndrome. Et donc, par exemple, le syndrome de Dravet, qui est une maladie épileptique qui touche la fille dans l'âge de l'école primaire, on a découvert il y a quelques années l'origine génétique à ce problème-là. Et donc, de plus en plus, on peut préciser et spécifier, et donc avoir des espoirs de cibler au mieux aussi le type de traitement qu'on va proposer, et puis mieux connaître le pronostic de différents patients, parce que c'est vrai qu'il y a des formes très très variées.
Et si on cite par exemple la bipolarité, l'épilepsie, épilepsie, autisme, ce genre de choses, alors parfois il n'y a pas de lien, j'imagine, entre les deux, mais la combinaison des deux peut faire en sorte que ça soit encore un peu plus lourd à vivre au jour le jour, malheureusement, et on peut le comprendre. Mais...
Alors si je vais faire un lien, épilepsie et autisme.
Oui.
Vous savez que j'aime beaucoup en parler. On va faire le lien avec l'épilepsie à pointons continue du sommeil lent. Parce que ça, c'est effectivement un trouble gravissime qui n'est pas facile à reconnaître. Et il faut attirer l'attention tant du public que des médecins de famille sur ce type de problème. Et donc, c'est effectivement une épilepsie qui est liée à la maturation cérébrale et qui se manifeste le plus souvent uniquement par des décharges anormales la nuit durant la phase de sommeil lent profond, et donc il n'y a pas de crise clinique. Première chose importante, donc on n'y pense pas au départ si on ne connaît pas le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cet enfant qui a 6, 7 ans commence à perdre des apprentissages qu'il avait déjà acquis et à avoir un comportement qui se modifie. Rien que ça. Il faut toujours penser à faire un électroencéphalogramme de nuit. L'électroencéphalogramme de nuit permet d'identifier un schéma, si vous voulez, un dessin de l'électroencéphalogramme qui est hyper spécifique de la maladie. Et c'est une maladie gravissime puisque, vous vous rappelez, quand on a parlé du sommeil, je vous ai expliqué que c'est durant le sommeil lent profond que l'enfant crée les réseaux de l'apprentissage. Oui. Et donc, c'est une perturbation majeure de la création de ces réseaux d'apprentissage qui se détricote complètement, qui fait que le drame, c'est une altération cognitive, intellectuelle et comportementale, et qui peut mener à l'autisme. C'est pour ça que je fais le lien avec ce que vous venez de dire. Qui peut mener à des troubles du langage avec des enfants complètement aphasiques. Donc, il y a vraiment une altération complète de la mise en place des réseaux cognitifs, d'apprentissage cognitif dans cette épilepsie à pointons continue du sommeil lent. Donc il faut impérativement y penser chez un enfant qui se modifie et qui perd des acquis. Toujours, toujours, toujours.
C'est parfois difficile d'y penser justement parce que ça se passe la nuit, mais effectivement le jour, il y a des expressions auxquelles les parents sont souvent extrêmement sensibles parce qu'ils savent quand il y a quelque chose qui change. Par contre, c'est parfois difficile pour eux de convaincre leur médecin qu'il y a eu un changement et que pour eux, ça paraît important. Il faut donc pouvoir trouver aussi des médecins qui soient à l'écoute et compréhensifs pour pouvoir déterminer ce genre de choses. Docteur Catherine Gillin, c'est déjà l'heure. Mais on vous retrouve dans quelques semaines pour parler d'un autre sujet et on espère pouvoir prolonger, pourquoi pas aussi avec les auditeurs qui peuvent toujours réagir, bien sûr. Et puis on vous retrouve donc, comme je le disais, avec beaucoup de plaisir. En attendant, on vous souhaite bonne continuation, profitez un peu du soleil.
Merci, à vous aussi, merci.